Bienvenue dans ce 32e épisode de L'écume des pages, le troisième consacré à la rentrée littéraire 2017. Dans ce numéro, retrouvez Mathieu Bossard de la librairie Passage, ainsi qu'Eva, Marie, Robin et moi-même, qui discutons des romans de Chantal Thomas, Pauline Pérignon, Simon Liberati et Eva Ionesco.
Oui, je crois que bon, un jour peut-être je n'écrirai pas, mais je sais que je lirai toujours à moins de ne plus pouvoir voir.
Côté des romans historiques, la rentrée littéraire 2017 privilégie aussi les romans de filiation. De Chantal Thomas à Simon Liberati en passant par Pauline Pérignon, les auteurs rendent hommage ou en tout cas racontent leur inscription à la suite de figures tutélaires, des figures d'un père ou encore d'une mère. C'est le cas notamment de Chantal Thomas dans Souvenir de la marée basse paru au Seuil. Alors en quelques mots, la grande 18e-miste, historienne, ancienne directrice au CNRS et spécialiste des libertins nous livre un très beau récit, j'ai trouvé, le portrait de sa mère, amoureuse de l'eau, à travers donc un roman qui est constitué de souvenirs sous la forme de courts chapitres et souvent de vignettes. C'est un portrait de femme assez magnifique, une femme qui est décrite comme un personnage un peu lunatique et dont on comprend à demi-mot que sa vie de femme au foyer l'amène à la dépression, mais qui ne retrouve finalement la liberté et la joie qu'en nageant. Marie, tu as lu ce roman de Chantal Thomas, quelles ont été tes impressions à cette lecture?
Alors j'ai beaucoup aimé cette lecture. À première vue, c'est des petits chapitres très courts, des phrases très courtes aussi. C'est un peu une écriture de la légèreté en règle générale. Et au début, ça commence même sur des scènes très légères, de bain, etc. Et j'ai vraiment adoré la façon dont cette légèreté apparente, presque des phrases comme des caresses, fin des brises, quelque chose de très léger, de très doux, gagne en profondeur justement quand on aborde des thèmes comme la dépression, la mémoire, la filiation. Enfin, finalement, ça abordait énormément de questions. Ça allait bien plus loin que la description de coucher de soleil ou de sable chaud. Mmh. Et j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé cette lecture, ouais.
Mathieu Bossard, vous aussi, vous avez été touché par le roman de Chantal Thomas et par ce récit de filiation?
Moi, j'ai adoré. Parce qu'on en lit beaucoup des romans où l'auteur parle effectivement du père ou de la mère. Et donc, effectivement, moi, quand j'ai commencé à lire ce texte, j'ai tout de suite été emporté par ce personnage maternel féminin qui trouve sa liberté dans... et l'oubli, pour le coup, de soi, qui est une forme de liberté dans cette nage. Moi, je trouve qu'il y a des moments merveilleux, ne serait-ce que je crois que c'est le premier, d'ailleurs, passage de natation où sa mère, en fait, nage dans le canal de Versailles. Je trouve que c'est d'une effronterie magique. Moi, je me dis que je rêverais de faire la même chose concrètement, et franchement, je trouve qu'en plus elle a une langue qui c'est tellement simple, c'est tellement facile chez elle, cette belle langue française. Voilà, moi je suis conquis, et je trouve que c'est un texte à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas Chantal Thomas. Et puis encore une fois, cette petite espièglerie qui pointe par moments, même si. Ça se rééquilibre par moments effectivement des côtés plus sombres, hein. Mais moi, ce qui me reste de ce texte, c'est une liberté inouïe, voilà. Et je conseille vraiment énormément ce livre. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ouais.
À mon tour, je conseille donc Souvenir de la marée basse de Chantal Thomas. J'étais pas nécessairement convaincue au moment de commencer la lecture. Moi aussi, je suis un petit peu plus sceptique. J'aime beaucoup les romans historiques, par exemple, mais les récits de filiation, en général, me laissent assez froide. Et là, je pense que c'est fait de manière tellement gracieuse, notamment grâce à ce style qui est effectivement très simple, mais en même temps qui est très beau. C'est pas du tout apprêté, mais c'est sublime parfois. Et On a également ce portrait de femme qui est très beau. Une personne pour qui nager, finalement, s'est tracé un sillage qui est aussitôt effacé dans un livre sur la mémoire. C'est quand même assez beau. Et on a des pages qu'on a envie de lire à voix haute. Je me suis fait des notes parce que elles sont juste... c'est une langue qui est très, très belle, qui met en avant, effectivement, aussi le corps, puisque le corps chez Chantal Thomas pense et il transparaît dans l'écriture. On a une précision au niveau de tout ce qui est sensoriel, qui est incroyable, qui est très beau. Une précision au niveau des émotions, comme si rien, absolument rien n'avait perdu. Une vraie jouissance, une vraie jubilation à la fois du corps mais aussi de l'écriture. Je crois que Marie, d'ailleurs, tu nous avais lu en fait un passage de Chantal Thomas pour l'écume des pages. Est-ce que ça aussi, ça t'avait touché, cet aspect très, très sensoriel de la langue?
Oui, vraiment. Moi aussi, j'ai noté plein de passages dans mon carnet. Enfin, vraiment, j'ai des phrases... Il y a des phrases qui surgissent tout d'un coup, on a envie de les garder. Puis c'est vraiment une écriture, oui, de la légèreté, mais de la lumière. Tu disais, tu parlais de sublime. C'est vraiment ce qui se passe. Et on a envie, oui, de garder ces phrases. Et en même temps, ça peut être lu parfois comme une sorte d'ode au moment présent, mais c'est jamais niais ou lourd. C'est pas du tout une invitation à être absolument heureux à tout prix. C'est juste savoir saisir ces moments-là, et c'est vraiment saisi avec une justesse qui m'a vraiment touchée. Et puis une façon aussi de jouer avec l'implicite, avec l'absence. C'est toujours des descriptions en creux. Voilà, l'absence, le silence. Il y a une grande place du silence, notamment celui du père, la mort du père aussi. Mais c'est tout ça, c'est dans l'implicite, et on n'est jamais. Enfin, la douleur est dans l'implicite, dans les creux. Et oui, c'est une écriture qui laisse une grande place au creux, au silence. Et ça m'a vraiment, vraiment touchée.
Alors pour tous les nageurs, je recommande, mais pas seulement, hein, mais il y a des pages très très belles sur la nage, tout simplement, sur le crawl. Mais là encore, c'est fait de manière subtile, c'est pas pompeux, c'est pas lourd. Je sais pas comment elle y arrive, mais vraiment, on a l'impression que c'est très fluide. Et dans ce récit, qui est aussi un récit d'enfance finalement, puisqu'elle raconte le temps passé sur les plages d'Arcachon, je trouve que c'est très beau la manière dont elle décrit la métamorphose des vagues, du monde qui l'entoure, et le fait également de grandir, qui est aussi donc une métamorphose du corps. Je cite juste un passage. « Le trajet de retour de l'eau, lui aussi, participe de l'état en perpétuelle fluctuation du monde qui m'entoure. Je ne grandis pas, je change. » Et voilà, une prose, donc, comme tu le disais, qui est aussi dans cette implicite, dans cette pureté aussi du style.
Oui, puis je trouve qu'on la voit aussi grandir ou mûrir à travers le regard qu'elle porte sur sa mère, comment elle raconte sa mère, comment elle se raconte aussi sa propre enfance. Évidemment, par exemple, elle parle de choses, genre, on se dit, forcément, elle le recrée, elle pense à ses sensations ou à ce qu'elle s'est dit en hésitant à marcher, par exemple. Elle dit, j'hésite, pourquoi j'ai choisi de marcher alors qu'à quatre pattes, c'était très bien. Enfin, elle se replace dans ces moments-là. Et c'est assez touchant, et je trouve que son regard sur sa mère évolue tout au long du roman, sans jamais être lourd. Et moi, j'ai beaucoup aimé la deuxième partie aussi, où il y a cette correspondance entre elle et sa mère, où finalement elles sont éloignées géographiquement, mais elles n'ont jamais été aussi proches. C'est très beau aussi, on a l'impression de glisser un peu dans leur intimité, mais à travers ces cartes postales, par exemple, mais on sent cette sensibilité, cette pudeur qui est entre elles, qui est lisible et qui contribue aussi, je pense, à la réussite.
Alors voilà, donc c'est un roman qui est paru au Seuil, Souvenir de la marée basse, qu'on vous recommande tous très vivement. Un autre récit de filiation, donc je l'évoquais en introduction, c'est celui de Pauline Pérignon, paru chez Stock, qui est ici dédié à la figure de son père disparu et qui s'intitule « Demain sera tendre ». On écoute tout de suite Robin nous donner son avis sur donc « Demain sera tendre » de Pauline Pérignon.
Alors le livre a assez mal commencé pour moi, je l'avoue. Je suis pas vraiment fan de cette veine des romans d'aujourd'hui qui s'attachent à raconter l'intime, souvent dans ses versants les plus crus, presque malsains, ou en tout cas déstabilisants, inconfortables, j'aime pas trop ça. Et bon, gardez ça en tête alors que je vous lis un passage de la première page. Je t'ai posé dans un cadre à l'entrée, en haut de l'étagère. Mon entrée me sert aussi de bureau, de salon et de salle à manger. Plusieurs pièces en une. Mon appartement n'en compte que deux. L'autre, ma chambre, voit défiler les hommes. Je préfère te tenir à l'écart, ils ne sont pas sérieux. Mais certains ont duré, et ils ont débordé l'espace, plus fervents, plus aventureux. Et sous tes yeux, sur mes tomettes, sur ma table, contre chaque coin du mur amordable, je fais l'amour. Moi, quand je rentre dans une librairie, je choisis mes romans en essayant de savoir à quelle personne c'est écrit. Donc, avec un peu de dépit, je commence à feuilleter en soufflant la suite du livre, en survolant les pages. Et surprise, quelques jeux, mais il n'est pas majoritaire. Ce qu'on lit surtout dans Demain sera tendre, c'est tu. Oui, c'est un livre écrit à la deuxième personne du singulier. En fait, c'est une sorte d'hommage que la narratrice écrit pour son père après son décès, ou plutôt une lettre d'adieu. Elle s'adresse directement à lui et raconte son histoire avec le tu. Dans la forme, ça ressemble un peu au roman Le Principe de Jérôme Ferrari publié il y a quelques années. On a une alternance entre un jeu et un tu, et les deux construisent petit à petit deux histoires, deux personnalités, et surtout une relation entre deux personnages. C'est un procédé stylistique que je trouve assez séduisant et qui, dans Demain sera tendre, a plusieurs avantages. D'abord, il met en valeur une relation plutôt que des personnages à proprement parler. Et comme ici, on parle d'une relation entre un père et une fille, c'est particulièrement intéressant parce qu'on peut y voir des ambivalences. Puis surtout la manière dont ces deux personnages, la narratrice et le père, se construisent de manière croisée, dont ils sont à la fois interdépendants et pourtant ils évoluent chacun de leur côté. Un autre avantage pour le lecteur, c'est qu'en termes d'identification, ça laisse la liberté de circuler entre les personnages. Tantôt on peut être à la place de la narratrice, du jeu, tantôt on peut être à la place du père, le tu, tantôt du côté de la fille, de l'enfant, tantôt du côté de l'homme, du père. Ce balancement entre le jeu et tu a un dernier avantage, c'est que le tu prend un caractère assez solennel, presque religieux. En fait, ici, Pauline Porignon écrit une sorte de tombeau au sens classique, c'est-à-dire un hommage à son père, mais pas n'importe quel hommage, un hommage qui vient ériger son père comme figure historique. Puisqu'en effet, le père qui est décrit était d'abord militant syndicaliste, puis journaliste, avec quelques renoms. Et le roman est l'occasion aussi pour la fille d'enquêter et de faire revivre cette histoire de son père, aussi du contexte dans lequel il évolue, donc qui va des années 60 aux années 80, et de voir un petit peu quel est ce milieu des cadres syndicaux et du journalisme politique. On peut revoir toute une ambiance d'une gauche forte non révolutionnaire et comment, un peu comment elle évolue au fil de ces années. C'est assez intéressant à lire. J'ai beaucoup aimé le mécanisme de l'écriture à la seconde personne, le balancement entre le jeu et tu. Mais sinon, j'ai pas été super sensible au choix que Pauline Pérignon a fait en termes stylistiques. Il y a beaucoup de sauts de registre, par exemple, qui m'ont perturbé.
C'était donc La vie de Robin sur le roman de Pauline Pérignon paru chez Stock. Demain sera tendre. Et je l'ai évoqué tout à l'heure, le nouveau roman de Simon Liberati, publié lui aussi chez Stock, Les Rameaux Noirs, s'inscrit en partie dans cette veine des romans de filiation. En partie parce que si l'écrivain témoigne de sa très grande admiration pour son père, le poète André Liberati, proche des surréalistes, son roman est aussi une réflexion sur l'inspiration qui mêle la forme du récit et de l'essai, de l'autobiographie et du Künstlerroman, puisqu'il raconte une essence de soi comme romancier. Simon Liberati disserte à loisir sur ses influences, sur ses maîtres en poésie, à tel point que la revue Transfuge a parlé d'Ars Poetica de Simon Liberati. Eva, je crois que tu as une opinion assez tranchée sur ce nouveau roman, c'est ça ?
Oui, j'ai trouvé que c'était une expérience de lecture très désagréable. Je pense qu'il y avait des choses positives qui m'ont touchée. Pour commencer par le positif, hein, y a ce rapport au père que j'ai trouvé intéressant. Comment est-ce qu'on écrit quand on est fils d'un grand surréaliste? Donc il y a bien peut-être une urgence pour Simon Liberati à écrire ce livre. J'ai bien aimé aussi toute la palette de... Comment dire? J'ai bien aimé la façon dont il évoque son inspiration, parce qu'il y a quand même beaucoup... Oui, il explique qu'est-ce que peut être l'inspiration, qu'est-ce que c'est une folie passagère, est-ce que c'est une imitation, est-ce que c'est un rapport à la mémoire, est-ce que c'est quelque chose de plus charnel, est-ce que c'est une violence. Donc ça, j'ai bien aimé. Surtout que comme il l'écrit lui-même, c'est vrai que le phénomène de l'inspiration échappe un peu à l'histoire littéraire et on en parle rarement. Et c'était aussi assez intéressant pour l'histoire littéraire avec comment fonctionne le groupe surréaliste, comment est-ce que André Liberati a affronté la figure un peu tyrannique de Breton, voilà. Mais globalement, j'ai trouvé que le livre obscur et très snob. En fait, il y a un réseau de références qui nous perd et qui n'apporte rien d'autre pour moi qu'une érudition un peu gratuite. Simon Liberati dit pouvoir communiquer directement avec l'Antiquité et la civilisation gréco-latine. Bon, pourquoi pas. Mais à mon avis, se construit plutôt une image de lecteur, une image d'intellectuel et aussi une image d'écrivain dans un milieu littéraire assez détestable, le milieu de la drogue, le milieu un peu désargenté. Donc voilà, j'ai pas aimé le côté littérature décadente, le côté un peu malsain et ce sentiment d'élection qui habite cet homme.
Je partage assez largement tes réflexions. C'est un livre qui est effectivement extrêmement érudit, mais pas nécessairement dans le bon sens du terme. Une érudition un peu m'as-tu vu parfois, et assez obscure, il est vrai. Simon Liberati raconte à loisir sa nouvelle passion pour l'orphisme. On est clairement perdu par certains moments. Il attire notre attention sur le fait qu'on n'a probablement pas remarqué la référence qu'il a fait telle page à tel auteur parce que nous sommes évidemment trop bêtes. Moi, ça m'a fait... l'effet d'un livre un peu pour cagneux, puisqu'on a toutes ces littératures classiques, la référence aux grands auteurs, à un panthéon personnel, et il en cite à loisir. C'est un livre qui est ardu à ce niveau-là, et puis on retrouve aussi nombre de personnages de ses propres romans précédents qu'il évoque à loisir, donc Eva Ionesco, sa femme, à qui il a dédié un roman, mais également James Mansfield, dans un roman précédent que je n'avais déjà pas beaucoup aimé. Mais comme toi, j'ai été quand même assez intéressée par son exploration du thème de l'inspiration, malgré tout, qui est un thème assez fascinant, par les pages qu'il consacre à son père et qui sont probablement pour moi les plus belles du roman. Les pages aussi qu'il consacre à sa propre vocation, alors de romancier et non pas de poète. J'ai trouvé ça assez intéressant la manière dont il revendique à la fois l'héritage de son père et s'en distancie. Là encore, l'écrivain, enfin, la personnalité qu'il nous donne à voir dans ce roman est effectivement une personnalité assez peu attachante, souvent rêche, souvent inexplicable. Et en même temps, certaines pages, j'ai trouvé, ont été très belles. Mais alors, j'ai dû relire cet ouvrage en fait pour m'en convaincre. À ma première lecture, j'ai vraiment pas du tout aimé. Ça m'a fait l'effet effectivement d'un romancier assez m'as-tu vu qui nous donne à toutes les pages, qui nous donne à voir l'étendue de ces alors connexions, de ces connaissances. Et après, à la relecture, paradoxalement, c'est un livre qui m'a impressionnée dans le sens de faire impression vraiment, parce qu'il y avait parfois des percées, j'ai trouvé des fulgurances et un style quand même qui est là. C'est donc un récit vis-à-vis duquel je suis assez ambivalente également. C'est un récit, je pense, qu'il faut lire quand même pour se donner une idée de ce que fait Simon Liberati en tant que romancier. Mais c'est effectivement voilà, pas le genre de romancier ou d'ouvrage qui m'intéresse a priori et que j'aimerais suivre sur le long terme. Au contraire, par exemple, de quelqu'un comme Patrick Deville, dont j'aime beaucoup l'entreprise littéraire, mais qui n'a pas ce côté justement m'as-tu vu.
C'est vrai qu'il y a quand même quelques belles pages et je pense aussi à certains moments où rêve et réalité se mêlent dans le livre, où on a des insertions de récits de rêve qui rappellent bien sûr le fonctionnement surréaliste. Et à ce propos, j'ai beaucoup aimé la dernière phrase, quand sa femme lui dit « Je n'arrive jamais à savoir si tu dors ou si tu lis », où vie et littérature sont confondues et ça m'a touchée.
J'ai aussi noté cette fin qui m'a... Alors moi, pour le coup, je l'ai prise plutôt aussi. Donc effectivement, une remarque très intéressante sur cette distinction entre rêve et littérature. Et aussi, c'est quand même une pointe d'humour, puisqu'elle lui dit « Tu dors ? Non, je lis. » Je n'arrive jamais à savoir si tu dors ou si tu lis. C'est quand même assez drôle quand on connaît la relation entre les deux. Donc voilà, c'est un livre qu'il ne faut pas absolument jeter, je pense, parce que bon, c'est quand même... très bien écrit. C'est en plus un romancier qui est assez en vogue, mais c'est peut-être aussi ce qui pêche dans le roman. Et d'ailleurs, en cette rentrée littéraire, paraît également le roman d'Eva Ionesco, qui s'appelle Innocence chez Grasset. J'en parle puisque, évidemment, Eva Ionesco, c'est la compagne de Simon Liberati. Simon Liberati avait écrit sur l'histoire d'Eva Ionesco, qui est une histoire assez tourmentée et, on pourrait dire, sordide. Innocence, c'est aussi un autre récit de nature autobiographique, à travers lequel donc, Eva Ionesco revient sur... Alors son enfance un petit peu tourmentée puisqu'elle était littéralement dans les mains de sa mère qui en a fait une top modèle à l'âge de 4 ans, mais qui a pris des photos d'elle dans des poses assez obscènes et pornographiques. Et donc ça reste un traumatisme et Eva Ionesco explore donc cette part sombre de son enfance. C'est un roman qui m'a... touchée, alors assez peu attachant là encore en raison du sujet, peut-être aussi un peu en raison du style qui m'a laissée un petit peu froide, mais malgré tout c'est un roman d'une force assez incroyable, donc voilà, je vous conseille quand même de le lire pour vous faire votre idée, lire peut-être également le roman de Simon Liberati qui a écrit aussi sur cette histoire, et puis Eva Ionesco avait tourné un film sur cette histoire, donc My Little Princess, donc c'est Innocence d'Eva Ionesco chez Grasset.
C'est la fin de ce troisième numéro consacré à la rentrée littéraire de septembre 2017. Vous retrouverez toutes les informations sur les romans évoqués pendant l'émission sur notre site internet, ainsi qu'un lien vers notre playlist SoundCloud spéciale rentrée littéraire. Rendez-vous mercredi prochain pour le quatrième et dernier moment de notre table ronde critique. D'ici là, passez une très belle semaine à l'écoute de Transistor.